France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Maintenant, chacun en nous a une certaine dose d'écologie.
On est conscient
qu'il faut faire quelque chose. Mais il faut y aller avec modération pour pas tout casser le système.
Plus personne ne conteste les objectifs, alors qu'en 2014, l'opposition politique était extrêmement forte sur les objectifs. Maintenant, tout le monde est devenu écolo.
On dit oui, il faut la transition écologique. Par contre, on fait le pari de l'accompagnement et du dynamisme économique, de l'inventivité et la créativité.
Samedi 14 mars, la veille du premier tour des élections municipales, 140 associations, collectifs citoyens et syndicats appellent à une vaste mobilisation pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Et l'écologie est au cœur de la campagne, comme elle ne l'a jamais été en France. Mobilité, gestion des déchets, qualité de l'air, les candidats ont largement verdi leur programme pour tenir compte des attentes des électeurs. Attentes exprimées avec force lors des élections européennes de mai dernier, où la liste Europe Écologie Les Verts a créé la surprise en arrivant en troisième position. Faut-il pour autant s'attendre à une vague verte lors du scrutin des 15 et 22 mars ? Le maire semble idéalement placé pour porter la transition écologique au quotidien. Il dispose de moyens pour agir concrètement. Mais puisque l'écologie semble désormais portée par tous d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, à quelles promesses les électeurs seront-ils le plus sensibles ? À qui feront-ils le plus confiance pour agir ? Des municipales bleu, blanc, vert, c'est un reportage signé Anne Fockenberg. Invité de ce grand reportage, Daniel Bois, spécialiste de l'écologie politique en France et en Europe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CEVIPOF et vous aurez le rôle de l'observateur cet après-midi. Et en studio avec nous, Yorgos Remvikos. Bonjour.
Bonjour.
Professeur de santé environnementale à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous avez derrière vous 20 ans de militantisme à France Nature Environnement. Un bref passage chez Les Verts, on peut donc vous qualifier de chercheur engagé. En quelques mots, est-ce que vous pouvez juste nous préciser le lien entre la santé environnementale et l'écologie ?
Je fais partie de ceux qui conçoivent la santé de manière globale. Parfois, on utilise le terme holistique. Et pour vous donner un exemple, il existe un mouvement qui s'appelle EcoHealth ou santé écologique. Et même l'OMS aujourd'hui propose une santé, One Health, santé des écosystèmes, santé des hommes, qui sont un seul et même sujet. Donc la santé environnementale est une manière, encore une fois, de parcourir avec le regard santé le résultat du changement.
Très bien. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter le reportage d'Anne Fockenberg. Anne, pour mesurer la place inédite qu'occupe l'écologie dans cette campagne 2020, vous avez choisi deux villes.
Oui, il fallait d'abord aller à Grenoble, à la rencontre d'Éric Piolle, le seul maire Europe Écologie Les Verts d'une métropole. Pendant 6 ans, il a mené une politique de transition écologique volontariste. Éric Piolle, ingénieur de formation, qui dit recycler la culture du contre-pouvoir des Verts pour la mettre au service des changements nécessaires à la lutte contre le réchauffement du climat. Mais ses adversaires lui reprochent son dogmatisme et la campagne est vive dans la capitale des Alpes. Et puis autre ville, Besançon, c'est l'une des villes cibles d'Europe Écologie Les Verts avec Strasbourg, Lyon, Rouen, Ivry-sur-Seine ou encore Bordeaux. Besançon, ville modèle également, qui a fait fondre de 35% le poids de ses poubelles en 10 ans.
Alors vous nous emmenez d'abord à Grenoble, au marché de la Halle Saint-Clair, un marché couvert situé dans le centre-ville à proximité des locaux de campagne.
Suivez-moi, mangez. Bonjour, je te présente Anne.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commerçante ?
Oui.
Qu'est-ce que vous vendez ?
Produits italiens alimentaires.
D'accord. Je fais un reportage sur l'écologie dans la campagne des municipales.
Ah, d'accord. J'ai toujours été élevée dans ce sens de bien manger, de prendre de bons produits, depuis toujours, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, c'est déjà dans cette culture. Et aujourd'hui, on réessaie de réinventer tout ça. C'est sûr qu'il y a quand même, il y a des positions qui sont prises par les maires comme nous à Grenoble, où il y a vraiment, je trouve, qu'il fait quelque chose de super à travers toute l'écologie et qui est vraiment poussé. Donc je trouve que c'est quand même bien, c'est important.
Christine, t'aurais temps pour la journaliste de France Culture ?
Eh bien, allez-y. Je vous présente Christine, la fleuriste.
Bonjour Christine.
C'est avéré aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse. On fait tous partie de cette belle planète et on est un maillon de la chaîne. Et il faut que ce soit le sujet important parmi d'autres, effectivement. Mais Ce qui me déplaît, moi, actuellement, c'est... comment dire ? Je trouve, par exemple, nos écologistes actuels, même à la ville de Grenoble, excusez-moi, je les trouve d'une brutalité extrême face à ce sujet. Et je trouve que ça n'est pas le bon moyen. C'est du jour au lendemain, quand on vient me parler ici, d'où viennent vos fleurs, comment sont-elles cultivées, etc. Comme si, du jour au lendemain, on allait, comme par magie, réimplanter des producteurs de fleurs qui étaient là il y a 30 ou 40 ans et qui... Voilà, c'est un problème politique et économique aussi. Donc, il faut changer les mentalités. Et changer les mentalités, ça demande du temps. Et peut-être qu'il y a une urgence à ce qu'on soit bousculé. Ça, j'en sais rien. Hein. Peut-être.
Dans la ville la plus plate de France, le vélo est devenu un art de vivre, voire même un totem, du nom du compteur à cyclistes installé dans le centre-ville sur une nouvelle autoroute à vélo. Les 2 ans de travaux ont effectivement bousculé les commerçants et les automobilistes, mais la Fédération française des usagers de la bicyclette a couronné Grenoble pour ses aménagements cyclistes dans la catégorie des villes de moins de 200 000 habitants. Pour autant, la pollution de l'air dans cette agglomération enclavée entre 3 massifs n'a pas drastiquement baissé et le maire sortant, Éric Piolle, compte bien intensifier ses efforts.
Évidemment, nous sommes favorables au vélo. Hein. C'est un mode de déplacement qui est majeur, qui est bon pour la santé, qui est bon pour l'espace public, qui est bon pour la pollution. Mais nous cherchons à une politique de mobilité, pas une politique de vélo. C'est là qu'on voit ce projet global, à la fois d'avoir un système ferroviaire, un RER Grenoble-Bois, hein, avec dès 2025 un axe vers le Grésivaudan, la vallée qui va vers Chambéry. Sur les bouchons de périphérie, Grenoble vit dans une géographie avec ses 3 vallées qui est de fait embouteillée. On était 3e au classement des bouchons en 2013. Donc avant notre arrivée, on a rétrogradé, si je puis dire, parce que c'est plutôt bien d'être bas dans ce classement 7e en 2017. Là, on est remonté 4e parce qu'il y a notamment des travaux aujourd'hui d'aménagement de la 480. Vous savez que nous aurons la première voie de covoiturage sur autoroute en France. La voie de gauche, à partir de l'été prochain, depuis le péage, sera réservée aux covoitureurs. Donc ceux qui sont plusieurs dans la voiture, ils n'auront plus de bouchons. C'est aussi une évolution de la mobilité. Plus personne ne conteste les objectifs, alors qu'en 2014, 2015, 2016, l'opposition politique est extrêmement forte sur les objectifs. Maintenant, ils disent « Ok, non, les objectifs, c'est bon, on est tous, évidemment, on est tous comme ça, on est tous écolos. Tout le monde est devenu écolo. Mais votre méthode, nous, on le ferait mieux, différemment, plus cool, etc. etc. »
Et on se rappelle aussi qu'au début de votre mandat, vous avez interdit la publicité, symbole fort. La ville telle que vous la concevez, Éric Piolle, c'est d'abord un îlot de résistance face à l'ultra-libéralisme pour sortir de la cage. C'est un acronyme que vous avez forgé, ça veut dire quoi la cage ?
C'est compétitivité, attractivité, gestion, excellence, un espèce de message qui fait que comme si nos vies en fait étaient une compétition. Or, nos vies ne sont pas une compétition. Nos vies sont de la recherche de sens, de bonheur, d'expérimentation concrète de ce que c'est notre humanité. Et donc effectivement, il faut sortir de cette espèce de dogme, hein, qui est vraiment un dogme, comme la croyance dans la sainte croissance, pour se dire que voulons-nous faire de nos vies, d'êtres humains, de femmes et d'hommes aujourd'hui, agronomes, mais ailleurs. On ne se vit pas comme un îlot de résistance, on se vit comme une expérience incarnée territorialement à Grenoble qui montre que peut-être que nous pouvons vivre avec des aspirations plus hautes que uniquement de se dire qu'on est des bons consommateurs et qu'on consomme plein 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 et que notre espace public, grâce à la stimulation de la publicité, devient un espace où on stimule nos pulsions de consommation. On peut faire autrement.
Et dans la métropole, notre identité, elle est claire, elle est transparente. Elle est écrite en toutes lettres depuis le début. Nous sommes radicaux et pragmatiques.
Crédité de plus de 35% des intentions de vote dans les derniers sondages, Éric Piolle a présenté sa liste verte-rouge citoyenne le 18 février dernier. C'était dans le quartier populaire de La Villeneuve, liste renouvelée à plus de 50%, avec une prise de choix, le parti animaliste. Sandra Krief est la correspondante grenobloise de cette nouvelle formation qui avait créé la surprise aux dernières européennes.
On a plein de propositions à faire pour le bien-être animal. En fait, ce que je voudrais à terme, c'est permettre de faire évoluer les consciences. Donc végétaliser les repas au maximum, plus qu'on ne fait aujourd'hui, c'est que tout ça rentre dans les mœurs et ça va de pair avec une mentalité écolo.
On ne peut pas rouler en vélo, pour moi, et manger des animaux. Ça ne va pas te faire. Quand vous savez que pour produire un kilo de bœuf, il faut 14 millilitres d'eau, ça fait quand même réfléchir tout ça.
Voilà.
Vraiment, j'espère qu'on sera élu pour avoir... je suis sûre que Grenoble, c'est une ville précurseur, en fait. Il faut vraiment qu'on fasse des avancées significatives pour l'environnement, bien sûr, mais pour les animaux, parce qu'on est quand même une seule espèce parmi plusieurs millions. Pas oublier qu'on n'est pas seul sur Terre. Voilà, il faut toujours vivre avec ça, et quand vous respectez les animaux, vous ne pouvez que respecter l'être humain. Ça va de pair.
Grenoble a toujours été un territoire d'expérimentation. C'est là qu'est né le premier groupe d'action municipale dans les années 60, groupe de réflexion en dehors des partis politiques pour développer de nouvelles formes de gestion urbaine. Aujourd'hui donc, tous les candidats s'estiment aptes à poursuivre la transition écologique et notamment Émilie Chalas, urbaniste de formation et investie par La République En Marche.
On a vraiment une politique écologique petit bras à Grenoble. On est en train de devenir une petite ville rabougrie, alors qu'on aurait pu en faire, et nous en ferons demain, une ville exemplaire en termes de gestion justement de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique. Tous les travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant se contentent de goudron, de béton, et même la rue de la République, qui est une des rues où il y a le Grand Hôtel, etc., d'hyper-centre-ville, il y a des pavés qualitatifs, donc pourquoi pas. Mais quand on regarde dans le détail, et c'est dans le détail qu'on se rend compte de, finalement, de l'incompétence à gérer le sujet de l'écologie opérationnelle. Les pavés sont scellés avec du béton. Or, aujourd'hui, ce que l'on fait pour justement capter l'eau et faire en sorte que les pavés soient moins chauds l'été, c'est en captant l'eau, eh bien, on a des pavés qui ne sont plus scellés et autour desquels il y a de l'herbe. Donc, c'est comme ça qu'on arrive finalement à garder de la fraîcheur alors même qu'on est en train de paver une route. Eh bien, ça n'a même pas été fait.
Alors, vous dites qu'il y a un sentiment de déclin en termes d'attractivité de la part des habitants et des acteurs de la ville de Grenoble. Sur quoi vous vous basez pour affirmer cela ?
Premier élément, c'est une enquête menée par Grenoble Alpes Métropole qui a été publiée l'année dernière, dont évidemment les élus ne se sont pas forcément gargarisés, mais qui explique très bien que les acteurs et les habitants ont un sentiment de déclin. Ce mot-là, ce n'est pas nous qui l'avons utilisé, ce sont les habitants et les acteurs. Ce sentiment de déclin est illustré par un certain nombre de chiffres sourcés, objectivales, où on a par exemple un taux de chômage de 15,6% à Grenoble, alors que la moyenne nationale est autour de 8%. On a un taux de pauvreté des moins de 30 ans qui est à 27%. Un taux de pauvreté pour tous les Grenoblois à 19%. On a une réduction de l'emploi salarié privé de 1,2%. On a une chute du foncier de 12%. Voilà. Et on a un solde migratoire négatif. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui quittent Grenoble que de gens qui s'y installent. C'est ça la réalité de Grenoble.
Est-ce que c'est possible de lier cette transition écologique justement avec cette attractivité économique dont les villes ont besoin ?
C'est exactement ce qui se va jouer le 15 mars à Grenoble. Il y a, je crois, le même objectif que d'engager la transition écologique, de lutter contre la pollution et contre le réchauffement climatique à Grenoble, que ce soit de la part d'Éric Piolle ou de notre équipe. La question, c'est comment on y arrive ? Eh bien, c'est là que la philosophie politique est fondamentalement différente. On a d'un côté, avec Éric Piolle, un plaidoyer pour la décroissance. C'est ça la stratégie d'Éric Piolle, c'est de dire pour entamer la transition écologique, il faut être moins nombreux, plus petits, moins se déplacer et finalement revivre comme avant avec une espèce de nostalgie, je crois, totalement outrancière sur ce qu'était Grenoble avant. Et de notre côté, on dit oui, il faut la transition écologique. Par contre, on fait le pari de l'accompagnement et du dynamisme économique, de, surtout à Grenoble, l'inventivité, la créativité. L'humanité tout entière a toujours, dans les virages délicats civilisationnels, su se réinventer. Pourquoi perdrions-nous cette confiance en l'humanité pour se réinventer ? Construisons la ville de demain sans avoir d'arrière-pensée, sans retour nostalgique à une ville d'avant qui n'existe pas aujourd'hui, qui ne peut plus exister.
Pour les élections municipales à Grenoble.
Bonjour madame. Élection municipale, un monorail pour traverser Grenoble en 10 minutes, avec Alain Carignon.
Signature sonore de la ville, le tramway est à mettre au crédit d'Alain Carignon. Il se présente comme le candidat de la société civile et il est soutenu par les Républicains. Ancien ministre, maire de Grenoble de 1983 à 1995, Alain Carignon a été condamné pour corruption et a purgé une peine de plus de 2 ans de prison. Il est sévère avec le maire sortant.
On fait de belles paroles dans les médias nationaux et on fait le contraire sur le terrain. Je veux dire, alors exemple concret, vous indiquez qu'il faut lutter contre les îlots de chaleur et vous en créez. Si vous marchez dans Grenoble, vous allez à avenue Agut-Samba, ensuite vous allez place Victor Hugo et rue Béranger, je vous cite des exemples très précis, et vous voyez des étendues de macadam et de béton. Un autre exemple, vous créez un éco-quartier, ça s'appelle la Presqu'île, et vous avez là 1 mètre carré d'espace vert par habitant, avec des immeubles où des centaines d'habitants ne voient ni le soleil ni les montagnes. Et ça s'appelle éco-quartier. C'est cela que j'appelle la tromperie généralisée, les tartuffes de l'écologie, qui mentent aux Grenoblois et aux médias.
Alors, par ailleurs, sur le bilan de la gestion Europe Écologie Les Verts par rapport à d'autres sujets, je pense à la sécurité, vous êtes aussi très sévère.
Par rapport à la gestion Vert France Insoumise, qui est la municipalité que nous avons, d'extrême gauche en réalité, évidemment qui a dit qu'elle ne voulait pas s'occuper de la sécurité. C'est sa décision et c'est son affirmation. Et donc le maire, par des déclarations trop légères, a dit qu'il ne voulait pas les caméras, donc la délinquance a reçu ce message 5 sur 5 et s'est développée terriblement. Nous sommes la première ville de France pour les agressions violentes pour 1000 habitants, nous sommes la première ville de France pour les vols à la tire pour 1000 habitants, c'est-à-dire que 1000 Grenoblois sont plus agressés que 1000 Marseillais, que 1000 Toulonnais ou 1000 Parisiens. C'est ça les chiffres du ministère de l'Intérieur. On a abouti à une situation intolérable, intolérable pour les victimes d'abord, et intolérable pour l'attractivité de la ville, puisque désormais nous avons des cadres, des personnes qui refusent de leur poste à Grenoble du fait de l'insécurité. Nous avons des étudiants qui réussissent des concours et que les familles ne veulent plus envoyer à Grenoble du fait de l'insécurité. On est arrivé à un niveau insupportable, et c'est la municipalité, le maire en est le premier responsable par ses déclarations, par l'absence de politique répressive et par les attributions de logements qui ont abouti à ghettoiser les quartiers et à les faire exploser.
Il n'existe pas actuellement de chiffres fiables pour comparer le niveau de délinquance entre les villes françaises. Mais au cours du mandat d'Éric Piolle, des voix se sont élevées pour dénoncer l'insécurité dans le chef-lieu de l'Isère, qui a même été qualifié de Chicago à la française.
Comme il y avait le long questionnaire.
Olivier Noblecourt n'est pas si étonné. Le maire sortant aurait délaissé, selon lui, les quartiers populaires. Soutenu par 6 mouvements politiques, dont le Parti Socialiste, il veut remettre du rose dans cette campagne.
Les Grenobloises et les Grenoblois attendent de leur maire, non pas qu'ils développent cette culture de l'excuse que j'appelle la gauche Calimero, mais qu'ils trouvent des solutions et qu'ils apportent du plus pour les plus fragiles. C'est l'inverse qui a été fait pendant 6 ans. On a privilégié les symboles, on a préféré prendre un arrêté anti-expulsion plutôt que de construire du logement social, alors que dans le même temps on diminuait les capacités d'hébergement sur la ville, etc. etc. Aujourd'hui, Éric Piolle peut s'inventer tous les symboles, aller faire des conférences de presse à la Villeneuve. Ça ne masquera pas la réalité d'une politique qui pendant 6 ans a méprisé et oublié les quartiers populaires et les plus fragiles de nos concitoyens. Donc, au lieu d'avouer qu'il y a eu des manques et de reconnaître le besoin de changer de braquet et de s'ouvrir éventuellement à cette gauche du réel qui est rassemblée aujourd'hui derrière moi et dans le collectif Grenoble Nouvelle Ère, ils font le choix du sectarisme et des accords politiciens, de quelques symboles pour essayer de masquer leur bilan qui est terriblement mauvais en matière sociale. Voilà, je ne peux que le regretter. Ça n'enlève rien au fait qu'on peut être très sévère dans la critique, et c'est mon cas, et rester responsable par rapport à l'avenir. Et donc, je privilégierai toujours à toute solution le rassemblement de la gauche, même si le débat, et c'est légitime, est vif.
Comment vous feriez, vous, si vous êtes élu maire, pour arrimer voilà, ces quartiers populaires à cette transition écologique, concrètement ?
D'abord, il faut que les conditions de vie dans ces quartiers, notamment sur l'espace public, soient les mêmes qu'en centre-ville. Ça suppose ce que j'ai appelé un choc de sécurité et de civilité, c'est-à-dire de la présence humaine dans les quartiers, à la fois de sécurité avec des policiers municipaux et avec des éducateurs et des médiateurs réellement présents. Ça suppose ensuite qu'on intègre dans la vie quotidienne les éléments de la transition écologique. La mobilité, c'est pourquoi nous proposons, et nous le ferons, contrairement à l'équipe sortante, des éléments de gratuité dans l'accès aux transports en commun. Ça suppose aussi que nous assurions l'inclusion, l'accès aux biens et services essentiels des plus vulnérables. C'est pourquoi nous créerons une grande innovation sociale à Grenoble avec un revenu de base locale. Ça suppose qu'on s'ancre aussi sur une politique d'alimentation locale à bas prix et de qualité qui n'a pas été menée depuis 6 ans, parce que la transition écologique, c'est d'abord les comportements du quotidien, y compris l'alimentation. Et ça suppose aussi qu'on soutienne les copropriétés pour que la rénovation thermique de l'habitat soit accessible à des copropriétés modestes. Or, l'équipe sortante a privilégié des critères d'exigence écologique tels que seules les copropriétés favorisées pouvaient se payer la rénovation thermique. Nous mettrons l'accent sur les copropriétés modestes.
Depuis Sciences Po Grenoble, installé sur le vaste campus de Saint-Martin-d'Hères, le politologue Simon Persicaud scrute le paysage grenoblois et ses villes au potentiel électoral fort pour Europe Écologie Les Verts comme Lyon, Bordeaux ou encore Besançon. Simon Persicaud, Europe Écologie Les Verts est dans une dynamique depuis les européennes, mais c'est un tout petit parti, il y a 8000 adhérents, revendiqués en tout cas pour tout et pour tout. Est-ce qu'il est équipé ce parti pour absorber cette demande d'écologie ?
Si il n'est pas en capacité de se faire rejoindre par un certain nombre de personnes compétentes et volontaires pour participer à l'exercice du pouvoir, non, il n'est pas équipé. Vous le dites, hein, il y a 8000 adhérents, donc ce qui est vraiment, vraiment faible. C'est une petite organisation, je pense que même dans la Fédération française de course d'orientation, il y a plus d'adhérents. Éric Piolle, quand il a conquis, Éric Piolle et sa liste, quand ils ont conquis le pouvoir en 2014, vraisemblablement, ils n'étaient pas tout à fait préparés en fait, à gouverner seuls. Alors, ils gouvernent seuls aussi parce que le Parti Socialiste avait refusé de s'allier à l'époque. Hein. Je pense qu'ils partaient plutôt sur un scénario où il y avait une forme d'alliance et donc ils pouvaient récupérer une forme de l'expérience et des compétences passées du Parti Socialiste dans un cadre d'une majorité un peu renouvelée où c'était eux qui dirigeaient. Là, ils se sont retrouvés très seuls et c'est vrai qu'en termes de personnes et en termes de compétences, ils étaient peut-être un peu sous-équipés pour diriger la ville. Donc ça, c'est un vrai risque. Et encore une fois, ce risque peut être corrigé s'ils réussissent à faire venir à eux toute une série de personnes et d'organisations dans la société qui sont très performantes sur ces sujets.
Moi, je travaille à France Culture, je fais un reportage sur l'écologie dans la campagne des municipales, donc oui. Vraiment sur l'écologie.
Ah oui, oui, dans tous les programmes, on voit qu'ils sont un peu écologiques. Et ah, ils parlent de l'écologie, tous, parce que je pense que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. D'ailleurs, nous, on voit, en tant que grands-parents, nos petits-enfants nous éduquent.
Ah bon ?
Ah oui.
Mon petit-fils, il me dit, quand tu vas à la boulangerie,
ne prends pas
de papier avec le morceau de pain. Oui. J'emmène mon sac tous les jours, mon sac en tissu pour mettre le pain. Voilà.
Ils ont des parents qui les éduquent et ils nous éduquent. C'est formidable d'ailleurs.
C'est une bonne chose d'ailleurs. Hein. Maintenant, chacun en nous a une certaine dose d'écologie.
On est conscient
qu'il faut faire quelque chose.
Pour la planète. Hein.
Mais il faut y aller avec modération, il faut bien étudier tout ça pour ne pas tout casser le système. Il y a un système économique qui a été établi depuis toujours. Si on y va trop brusquement, on casse tout.
Besançon fait partie de ces villes gagnables par Europe Écologie Les Verts. Sur sa liste, Anne Vigneault, la candidate du parti, a fédéré la gauche à l'exception des Insoumis. Elle nous donne rendez-vous au bord du Doubs, en centre-ville, près du barrage du Moulin Saint-Paul, bâtiment dans lequel elle voudrait installer une micro-centrale électrique. Ce qui a changé cette année par rapport à 2014, c'est que la gauche, là, vous donne les clés de la maison et vous dit, vous prenez la tête de liste. Est-ce que vous êtes prêt, Europe Écologie Les Verts, à prendre les clés et à prendre le pouvoir ?
Alors, moi, je ne conçois pas les choses de cette façon. Ce n'est pas j'ai pris le pouvoir et du coup, tout le monde s'aligne derrière moi. Ça n'a jamais été mon mode de pensée parce que je mets en priorité l'objectif de proposer aux habitants de Besançon d'aller sur la transition écologique dans laquelle nous sommes nécessairement, nous devons, c'est un devoir, de prendre cet objectif-là.
Et pour l'accélérer, cette transition écologique, la mesure forte de votre programme, c'est quoi, en quelques mots ?
Eh bien, je le répète, c'est que l'ensemble de nos projets soient toujours des projets partagés. Parce que c'est pas parce que vous allez mettre... Alors, bien sûr qu'on va vous dire piste cyclable, bien sûr on va vous dire agriculture urbaine, bien sûr on va vous dire une entreprise du futur qui s'empare aussi des questions de moins de consommation, bien sûr la rénovation, bien sûr... Voilà. Mais ce n'est pas l'élément principal. Ça, je crois qu'à la limite, même presque tout le monde est capable de le dire. Ce qui compte, c'est comment on fédère pour que ce projet-là soit un projet commun.
Votre collègue qui se présente à Ivry-sur-Seine, elle dit on a encore trop cette image des arbres et des pots de fleurs. Vous sentez que vous avez encore un manque peut-être d'image, de parties capables de traiter de tous les sujets ?
Moi, je ne pense pas qu'on ait un manque de quoi que ce soit. On a des partis qui présentent des listes concurrentes. Ils veulent faire raviver des propos qui étaient tenus encore il y a 5, 10, 15, 20 ans, qui consistent à dire « vous êtes des bisounours, vous êtes des gens qui rêvaient, qui sont responsables, qui ne savent pas compter un budget, etc. » Sauf que tous les jours, on leur démontre qu'on maîtrise nos budgets, qu'on maîtrise les solutions qu'on propose et qu'on s'appuie sur des expériences qui sont fondées. Et j'appelle tout le monde à regarder Fribourg-en-Brisgau, c'est en Allemagne, hein, et c'est en Allemagne, c'est à 2 heures d'ici, c'est notre jumelle. Et cette jumelle-là, elle a choisi depuis très longtemps d'être dans une ligne de développement durable et les entreprises viennent s'installer à Fribourg-en-Brisgau. De fait, elles bénéficient d'une image extrêmement positive.
Bonjour, je ne sais pas si vous votez sur Besançon. D'accord, ok, d'accord.
Moi, je tracte pour Anne Vigneault, liste écologiste et de Rassemblement de la gauche.
Moi, je tracte pour Alexandra Cordier, jeune femme de 37 ans, sans parti, sans étiquette.
Elle vient de La République En Marche quand même si elle a été exclue parce qu'elle était, elle s'est maintenue face au candidat officiel de LREM.
Elle n'a pas été exclue, elle a décidé de s'en aller effectivement, mais le candidat LRM a été PS, maintenant il se déclare presque écologiste, il est LRM, on ne sait plus trop quoi.
Dans la valse des étiquettes générée par La République En Marche en 2017, Besançon est un cas type. Le maire PS sortant, Jean-Louis Fousseret, est parti chez Emmanuel Macron. Et pour créer un peu plus de flou, il soutient aujourd'hui une candidature dissidente, Alexandra Cordier, qui se présente sans étiquette. Quant à Éric Alauzé, député du Doubs et candidat officiel de LREM, il est aussi un ancien vert. Qu'est-ce qui fait que vous avez quitté les Verts dans les années 2000, un petit peu avant 2010 ?
Ben, en fait, depuis 30 ans, il y a eu des allées et venues permanentes. On a vu là, aux européennes, Yannick Jadot fait une candidature plutôt d'ouverture. Il a cette culture des Verts européens, parce que quand on regarde, par exemple, les Verts du nord de l'Europe, ils sont beaucoup plus libéraux, par exemple. Les cultures sont très, très différentes. Il n'y a pas qu'une façon, même dans le Parti Vert européen, de faire de l'écologie. Donc, Yannick Jadot s'ouvre très largement. Et immédiatement derrière, il y a un congrès des Verts. Et là, sa candidate, eh ben, ça s'est battu à plate couture. Et qui est élu ? Eh ben, à nouveau un activiste sur la gauche du mouvement qui écrase Eva Sas, Julien Bayou, qui l'emporte avec 44% des voix, je crois, au premier tour, elle un peu plus de la moitié. Et ici, en Franche-Comté, la sensibilité de Bayou fait 66%. C'est pas du tout les Verts que j'ai connus, même à Besançon, pendant les 28 ans, dont 10 pendant lesquels j'ai animé ce mouvement. Voilà, donc il y a un enfermement dans une doctrine et une tentation de la protestation permanente matin, midi et soir qui n'est pas de nature, à mon avis, à construire un projet et surtout à emmener l'ensemble de la population si vraiment on veut relever le défi écologique.
Alors justement, vous, ici à Besançon, l'écologie ne s'oppose pas à l'économie. Concrètement, est-ce que vous avez des exemples qui vous différencient de la candidate Europe Écologie Les Verts ?
C'est une faiblesse, c'est une des raisons qui m'a progressivement aussi éloigné des Verts. Si vous voulez, il y a une façon de concevoir l'économie, il suffit de regarder les programmes, en fait, qui se limite à trions les déchets, faisons de l'économie circulaire, isolons nos bâtiments pour moins consommer d'énergie. C'est très, très, très lié de façon très directe à l'environnement, à l'utilisation des matières premières, au rejet de gaz à effet de serre, ça. Alors que la question de la transition écologique, si vraiment on veut la réussir, il va falloir qu'elle traverse l'ensemble du champ économique. Elle est beaucoup plus en profondeur dans le champ de l'économie, et c'est pour ça qu'il faut aussi s'intéresser aux sciences et aux techniques. Ici, on a un secteur très fort qui est celui des microtechniques, qui est hérité de l'horlogerie, hein. LIP, c'était Besançon, et on a une technicité très forte. Eh bien, il faut que le développement durable pénètre tous les secteurs économiques et soit approprié par l'ensemble des acteurs économiques et pas exclure ces champs-là.
Le candidat bisontin Les Républicains, Ludovic Fagot, est aussi soutenu par le petit parti Agir qui gouverne avec Emmanuel Macron. Il critique lui aussi le green dogmatisme d'Europe Écologie Les Verts.
On est dans un dogmatisme anti-voiture. Ici, sur le territoire bisontin, on a un espace pas très loin du cœur historique qui s'appelle la place Leclerc. La place Leclerc a été aménagée pour faire en sorte que les voitures ne passent plus. C'est un espace, moi je l'avais caractérisé comme étant une nouvelle attraction d'Euro Disney. On a 34 ou 37 feux tricolores sur un petit périmètre qui sont installés. Les voitures ne savent plus comment faire. Alors, on n'a pas résolu le problème. Certes, sur l'espace de la place Leclerc, les voitures sont un peu moins importantes. Par contre, les voitures ont pris des rues adjacentes pour pouvoir circuler. Donc, on est dans ce dogmatisme très présent sur un no voiture et un zéro voiture. Sauf qu'on a aussi, aujourd'hui, sur le territoire bisontin et grand bisontin, des modes de fonctionnement, une particularité aussi qui fait que le véhicule, on en a besoin parce qu'on a une spécificité géographique avec un territoire assez vallonné. Et donc, c'est assez complexe pour nous aujourd'hui de se passer pour certains des véhicules.
Bonjour. Est-ce que vous êtes monsieur Ricciardetti?
C'est bien ça, madame.
Enchanté. Candidat.
Voilà, candidat pour Changeons Besançon à la mairie de Besançon, municipal 2020.
Candidat investi par...
Par le Rassemblement National. Voilà.
Le Rassemblement National veut aussi jouer sa carte verte, celle du localisme. Le concept a été digéré et recyclé à Besançon par le candidat Jacques Ricciardetti. Quatrième dans les sondages, il mène campagne sans permanence dans un café, place Granvelle.
Ben voilà, la profession de foi vient d'être marketée, donc très simplement, sécurité, proximité, environnement. Voilà, donc elle est en première ligne sur notre programme. Voilà. Et bien évidemment, on explique aux gens ce que le Rassemblement National a toujours développé, c'est ce fameux localisme. Voilà, ce localisme et cette verdure ou cette écologie non punitive, on voudrait aussi l'installer, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais cette fameuse zone des vêtes. Très simplement, ça a fait polémique sur Besançon, il y a eu une déclaration d'utilité publique qui a été contestée, et on se retrouve dans un immense no man's land où précédemment il y avait des zones maraîchères et des jardins familiaux. Bon voilà, il y avait un grand projet de la ville de bétonner cet endroit. Pour nous, c'est non. C'est très clairement non. Nous voudrions qu'à la place de ce bétonnage en plein cœur de ville, nous ayons un potager municipal ou tenu par l'économie sociale et solidaire, un grand verger pédagogique et écologique. C'est ça l'écologie. Et que ces vergers et que ces potagers servent à alimenter la cuisine centrale byzantine. Avec la création, en relation avec l'économie sociale et solidaire, d'une immense légumerie. Tout ça sur cette place des vêtes. Nous engageons à ne pas bétonner les vêtes et à faire que cette zone des vêtes devienne un poumon vert et un point d'alimentation de nos cantines scolaires.
Les citoyens y verront-ils clair dans les différentes nuances de vert les 15 et 22 mars prochains? Le potentiel d'Europe Écologie Les Verts ne va-t-il pas se disperser à cause d'électeurs volatiles? Et les jeunes qui marchent pour le climat vont-ils trouver le goût de la politique?
Des municipales bleu, blanc, vert, un reportage d'Anne Fauquemberg avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, Yorgos Remvikos, professeur de santé environnementale, et Daniel Bois, spécialiste de l'écologie politique. Daniel Bois, des jeunes vont à nouveau marcher pour le climat vendredi 13. La jeune militante suédoise Greta Thunberg doit d'ailleurs venir à Grenoble la semaine prochaine. Est-ce que leur inquiétude pour l'avenir de la planète peut pousser les jeunes vers les urnes à l'occasion de ces municipales? Parce qu'on sait que d'habitude, c'est un scrutin qui ne les mobilise pas.
Oui, c'est un peu le paradoxe parce que les jeunes, on les voit très actifs autour de mouvements comme Extinction Rebellion. Donc, ils sont prêts à faire des manifs, à faire des choses très démonstratives. Mais c'est une partie des jeunes, la partie très 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 motivée. Si on regarde l'ensemble des jeunes en France, en tout cas, de toute façon, traditionnellement, depuis très très longtemps, on le sait du point de vue de la sociologie politique, les jeunes votent moins. Et pour les élections municipales, c'est encore plus le cas. Je viens de voir une enquête qui dit que même pour cette élection municipale, les jeunes ne sont pas très très décidés à voter. Voilà, on sait pour quelles raisons. Ils ne sont pas encore complètement insérés dans leur profession, dans le réseau social, etc. Du coup, ils sont moins concernés par les affaires de la cité. Donc, bien, c'est peut-être un problème pour les écolos dans cette élection.
Alors, je crois qu'aux élections européennes, il y en a quand même qui se sont décidés au dernier moment, ce qui fait qu'on ne les avait pas vus dans les intentions de vote.
Oui, c'est vrai que les sondages les avaient beaucoup sous-estimés et c'est vrai qu'ils se sont décidés au dernier moment. À vrai dire, c'est une caractéristique très constante des gens qui sont proches de l'écologie, des électeurs qui sont proches de l'écologie. Chaque fois qu'on pose la question à quel moment vous avez pris votre décision de vote, à peu près toujours, même quasiment toujours, les électeurs écolos sont parmi les derniers à se décider à voter. Ils se décident quelquefois sur le chemin du bureau de vote. Ça, on le sait depuis longtemps. Bah, peut-être parce que c'est des électeurs un peu plus jeunes. Donc, comme ce que je disais à l'instant, ils sont moins insérés dans leur profession, dans un réseau social. Ils ont plus de mal à faire un choix. Et voilà, donc ça a été vrai à la dernière élection, mais c'est une constante.
C'est pour ça qu'on parle d'électorat volatile.
Oui, volatile. On a raison d'employer ce terme parce que depuis que l'écologie politique existe et depuis qu'elle a des résultats importants, en tout cas intéressants du point de vue électoralement, on a toujours observé que selon l'élection, selon qu'il s'agit de local, de national, d'européen, on avait une frange d'électeurs qui pouvait osciller en général entre la gauche et, c'est-à-dire souvent le PS, entre la gauche et les Verts. C'est-à-dire que par exemple, à l'élection locale, ces électeurs ont plus tendance à voter pour les Verts, et puis à une élection nationale, ils auront plus tendance à voter pour le PS. Donc c'est bien un électorat un peu flottant.
Anne Fauquemberg.
Yorgos Remvikos, c'est quoi la différence entre écologie et environnement et à quoi ça devrait ressembler finalement une ville écologique idéale?
Non, mais là, le problème, c'est pas qu'il y a une différence. Le problème, c'est que pendant des années, on a mis en avant cette fiction qu'est l'environnement, quelque chose qui est autour de nous, quelque chose qui est extérieur à nous. Alors que je pourrais plaider le fait que nous vivons toujours dans un milieu de vie en continuité par nos poumons, par nos tubes digestifs, et on modifie en permanence notre milieu. Donc le concept d'environnement n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, n'a aucun sens. Et maintenant, on a remplacé l'environnement par l'écologie. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une continuité dans l'écologie politique ces dernières années, que l'on peut commenter, l'écologie portée par ceux qui s'appelaient écologistes. Mais en écoutant votre reportage, clairement, le terme écologie est devenu un élément de marketing politique que tout un chacun peut balancer comme étant, voilà, moi aussi. Ben non, je suis désolé, là... Moi, j'attends du politique une vision, une société, une société différente de celle qu'il critique aujourd'hui. Et donc, quelles sont les valeurs, effectivement, qu'il nous propose? Je n'ai pas entendu une seule fois le terme d'équité, c'est-à-dire de savoir si cette société où les inégalités n'arrêtent pas d'augmenter, ce qui, par ailleurs, détruit toute cohésion sociale, qui amène de l'insécurité et ainsi de suite, et on prend les manifestations périphériques que l'on cherche encore une fois à juguler pour surtout pas toucher au cœur du système qui, lui, est responsable du changement climatique. Donc vous voyez comment on déshabille finalement les choses pour faire comme on faisait avant. Il y a quelques idées et quelques propositions qui sont susceptibles effectivement de favoriser, d'amener une... de pousser vers un changement.
Alors, Daniel Bois, la Fondation Jean Jaurès s'est penchée sur les programmes des candidats aux municipales. Et en ce qui concerne les promesses vertes, elle n'a pas vu énormément de différence. Et vous ?
De différence, vous voulez dire, par rapport aux autres partis ?
Entre les propositions faites en termes d'écologie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un certain consensus sur les objectifs, et après c'est plutôt dans la méthode que ça diffère.
Oui, sans doute, il y a peut-être un consensus sur les objectifs, et le plus frappant, c'est de voir qu'il y a tellement d'écologie dans les programmes, quel que soit le parti, ça c'est vraiment nouveau. Donc, comme il s'agit du local, bah, les recettes sont un tout petit peu les mêmes pour tout le monde, à savoir végétaliser, s'occuper de la circulation, faire des pistes pour les vélos, s'occuper des cantines scolaires, etc. Donc c'est pas très surprenant qu'on ait des programmes voisins. Maintenant, c'est l'électeur qui choisira. Et moi, j'ai tendance à penser que l'électeur, quelquefois, va se demander mais comment se fait-il que ce parti qui, à l'élection précédente ou à celle d'avant, ne parlait pas le moins du monde d'écologie, se met à parler tout d'un coup d'écologie. Je pense que c'est un petit peu ça qui fera le tri. Les scores qui sont prévus, alors peut-être que les sondages se trompent, on n'en sait rien pour l'instant, mais les scores qui sont prévus pour les écologistes Europe Écologie des Verts dans les grandes villes sont assez impressionnants, sont même très impressionnants, dans la mesure où ils doublent largement la gauche, ils ont quelquefois pris la tête de la gauche, et à mon avis, c'est le signe que les électeurs quand même privilégient au fond un parti qui a travaillé sur ces thèmes depuis longtemps, plutôt que ceux qui découvrent l'écologie assez tardivement.
Anne Fockenberg. Qu'est-ce que ça traduit, cette montée aussi de la promotion du local? On entend le localisme qui fait partie du logiciel Rassemblement National.
Ben, le local, c'est une idée ancienne, une idée familière, parce qu'au fond, c'est vrai, c'est une idée qui est assez très ancienne, en fait, dans la culture. C'est l'idée que, ben, au fond, pourquoi aller chercher très loin les choses, etc. Donc, il y a déjà, dans la culture, y compris la culture française, bien sûr, l'idée de la familiarité, de la proximité, etc., alors qu'on est dans un monde, celui de la mondialisation, de la globalisation, qui nous demande, au contraire, de penser l'éloignement, d'accepter la mobilité de pays à autre, etc. Et c'est une idée qui était finalement assez inconfortable. Or, ce que nous dit aujourd'hui l'écologie, c'est que en dehors du soutien culturel de cette valeur, elle a des vertus environnementales. Au fond, ce qu'on nous explique maintenant, c'est que consommer des choses qui viennent d'une petite distance, ben, ça dépense moins d'énergie. Qui était une chose qu'on n'avait pas dans la tête il y a 5 ou 6 ans, ou 10 ans en tout cas. Et donc, il y a plein d'arguments en faveur de la mobilité qui, à la fois, rapproche les gens, pense-t-on, permet de garder ses racines locales, et puis en même temps a des intérêts en termes d'économie par rapport à l'énergie, donc par rapport à la dépense de CO2. Donc ça devient quelque chose d'assez fort.
Donc le localisme, Daniel Bois, c'est bien une politique écologique ?
Oui, à condition de percevoir aussi, de la prendre avec raison et de ne pas oublier aussi que si on est totalement pour le localisme de façon un petit peu rigide, on va par exemple oublier le commerce équitable. Et le commerce équitable, vous savez, c'est des produits qui nous viennent de loin, mais qui sont des produits vertueux du point de vue écologique, mais qui viennent de loin, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Brésil. Faut pas oublier aussi qu'il y a une mobilité des produits, des humains, etc., qui veut dire quelque chose. Si on est totalement pour le local, est-ce que ça veut dire qu'on est sur une position qui consiste à rejeter totalement toute immigration. Vous voyez, il y a des doubles faces de l'idée de local. Donc, il faut faire un tout petit peu attention.
Yorgos Remvekos, vous voulez réagir là-dessus ?
Je pense qu'on néglige le fait que chaque fois, les concepts, c'est propre à l'essentialisme européen, le localisme, c'est une chose bien définie. Et donc, je plaiderai simplement sur le fait, Daniel Bois l'a dit, nous avons besoin de racines, nous vivons quelque part. Donc, de ce point de vue-là, le rapport qu'on entretient avec le cadre de vie fait intégralement partie de notre épanouissement. Et donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus refuser de reconnaître la valeur du local. Mais le localisme peut... je dirais de donner lieu à des tas de contresens. Daniel Bois en a parlé de quelques-uns, mais moi je vais prendre le contre-pied et essayer de défendre pourquoi le localisme va donner des arguments à ce que disait Éric Piolle tout à l'heure sur le sens. Quand on a éloigné les lieux de production des lieux de consommation, on a tout artificialisé, on a perdu le lien. Et on ne sait plus comment poussent les légumes. Enfin, il y a des gens qui n'ont jamais vu, encore une fois, la production, comment ça se passe. Un arbre qui croît, des fruits qui apparaissent, une culture qui pousse, etc. Donc, le local, c'est aussi ce rapprochement du producteur et du consommateur. Donc une autre reconnaissance, je dirais peut-être quelque chose de banal, mais quand vous mangez les légumes de votre potager, vous ne les triez pas, vous ne cherchez pas s'ils sont mal formés ou s'ils ont une tache, vous les mangez, parce que c'est les vôtres.
Avec fierté.
Avec fierté. Alors que quand vous allez au supermarché, vous allez trier une par une les pommes pour retirer celles qui ont un oignon.
Sinon, on a l'impression de se faire avoir.
Exactement. Et donc, vous voyez que le local, c'est là où on trouve le sens. Et si je défends, par exemple, les jardins partagés, l'agriculture urbaine, etc., parfois je me fais railler par les grands ingénieurs, mais enfin, l'agriculture urbaine ne nourrira pas la ville. Ben oui, mais de mettre les mains dans la terre, ça a un autre sens que de regarder ou de jouer aux jeux vidéo. Donc vous voyez, l'écologie nécessite aussi de réfléchir à l'équilibre de la société, parce que l'écologie s'intéresse aux relations, aux rapports, le rapport entre humains, le rapport entre humains et non humains, et avec, je dirais, le substrat de la terre. Et donc j'attends encore une fois un discours sur la justice sociale, pas un discours de distribuer quelques subsides aux pauvres pour qu'ils se sentent mieux. Non, une justice sociale, réfléchir sur ce qu'est la justice sociale. J'ai dit que les inégalités croissent, c'est un constat général. La richesse est appropriée par un plus petit nombre de personnes de plus en plus, et ceci produit une désintégration sociale. Donc, on va continuer comme ça ? Moi, je n'ai pas à dire « j'ai le modèle », mais je pose la question.
Alors, vous parlez de la justice sociale. Daniel Bois, c'est effectivement une attente forte exprimée par les électeurs, comme la sécurité, entre justice sociale, sécurité, écologie. Qu'est-ce qui prime dans les attentes exprimées par les électeurs ? Tout ça à la fois ?
Tout ça à la fois, et ça dépend un petit peu des lieux où ça se passe. Mais oui, bien sûr, les électeurs demandent à la fois du social, de la sécurité, de l'économie, etc. Quand on regarde les enjeux qui sont préférés par les électeurs au moment des élections, bien sûr, aujourd'hui, il y a l'environnement, et c'est un petit peu nouveau. Mais par exemple, pour ce qui est des communes, la sécurité est un domaine important. Et alors, à tort ou à raison, encore une fois, on va reprocher aux écologistes de ne pas avoir là-dessus un programme très clair, voire avoir les idées très claires. Alors, à eux de se défendre. Ça m'a frappé dans les concurrents que vous aviez à Grenoble, non écolo, de voir au fond qu'ils développaient trois arguments contre Éric Piolle, contre l'écologie des Verts. L'argument de l'économie, à savoir ils veulent la décroissance. L'argument de la sécurité, ils sont pas capables de faire la sécurité. Et l'argument du social, ils auraient pas fait le social. Faut quand même rappeler que l'équité, le social, c'est quand même au cœur des valeurs d'Europe Écologie des Verts, me semble-t-il. La question de la décroissance et l'économie, c'est une question assez complexe. Et je crois que les écolos d'Europe Écologie des Verts sont assez prudents là-dessus. De nos jours, c'est quand même difficile, dans la situation où on est, particulièrement aujourd'hui, de plaider clairement la décroissance. Donc là, ça complique un petit peu les choses.
Anne, justement, est-ce que les écolos, comme vous dites, ils sont lisibles à travers cette élection ? Parce qu'on voit des arcs, comme dirait Éric Piolle avec son arc humaniste à Grenoble, des arcs qui sont très différents d'une ville à l'autre. À Grenoble, Éric Piolle dirige avec les Insoumis. À Besançon, les Insoumis ont une liste à part. À Bordeaux, il semblerait qu'il y ait un rapprochement entre LREM et les Verts. Est-ce qu'on voit clair ?
Écoutez, à Bordeaux, je suis pas encore certain de voir ça. C'est vrai que les écolos font des alliances variables, selon les cas. Traditionnellement, depuis les années 90, les écolos avaient une priorité qui était l'alliance avec le Parti Socialiste. De nos jours, le Parti Socialiste est pas particulièrement brillant, et donc ils ont été conduits à avoir des alliances un peu variables. Donc il y a effectivement des alliances avec la France Insoumise, avec les communistes, avec les socialistes. Effectivement, c'est pas forcé que les lecteurs voient très 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 clairement. Par contre, ce qui est dit de façon ferme de la part d'Europe Écologie Les Verts pour l'instant, encore une fois, à tort ou à raison, c'est qu'aucune alliance ne serait acceptable, ça a été redit il y a pas longtemps, aucune alliance ne serait acceptable avec La République En Marche. Voilà, ça reste à discuter, peut-être, ce cas par cas, mais pour l'instant, c'est la position officielle. Donc, ils ont quand même une limite très claire qui est alliance à gauche. Quelle gauche ? Ben, ça dépend des cas.
Est-ce qu'il existe une écologie de droite, Daniel Bois ?
Ben, elle existe peut-être dans les esprits, mais elle n'existe pas dans les institutions, ou en tout cas dans la politique, ou très peu. Vous avez une écologie du centre ou de droite qui était représentée par des personnes comme Corinne Lepage et d'autres. Et en fait, elle a jamais obtenu plus de quelques pourcents aux élections, notamment aux élections nationales. Et quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, on n'est pas un cas particulier. C'est un peu pareil dans tous les pays. Dans tous les pays, l'écologie penche plutôt penche nettement à gauche. Alors, c'est vrai que Éric Ozlet, tout à l'heure, évoquait le fait que dans les pays du Nord, et notamment en Allemagne, il y a une perception de l'écologie politique qui est plus ouverte, manifestement, à certains thèmes du libéralisme économique, voire à des alliances de fait avec le centre. C'est pas du tout dans la culture politique française pour l'instant, à tort ou à raison, mais c'est comme ça.
Alors, sachant que les écologistes ont été très peu aux affaires hein, jusqu'à présent, il y a très peu de municipalités. Oui. Et est-ce que aussi parfois la confrontation avec la gestion qui amène à faire quelques compromis? Je pense par exemple à l'attention aux entreprises. Évidemment, il faut défendre l'emploi local, donc on peut être amené à revoir un petit peu, non pas ses valeurs, mais la manière de gérer tout ça.
Et j'ajoute qu'à Grenoble, Éric Piolle n'a pas d'adjoint à l'économie.
Oui, vous avez raison. De mon point de vue, c'est un des points faibles d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire le fait de réussir à penser l'entreprise. Chez Les Verts, par exemple, on n'aime vraiment pas beaucoup le terme de développement durable. Alors, c'est vrai qu'il est discutable. Mais je crains que ça les ait un petit peu empêchés de penser quels pouvaient être les rapports entre l'écologie et l'entreprise. Bon, l'entreprise va pas disparaître si les écologistes arrivent au pouvoir ici ou là. Donc, je crois qu'ils auraient intérêt à mieux penser le rapport avec les entreprises. Il y a un petit peu, vous savez, les adhérents des écologistes, les adhérents d'Europe Écologie Les Verts sont des populations, on les a souvent analysées, qui sont beaucoup plus liées au métier de l'État, enseignants, etc., etc., qu'au métier du privé. Alors ça a un petit peu changé ces dernières années, mais malgré tout, il manque un peu d'ouverture au monde de l'entreprise, de mon point de vue.
Yorgos Remvikos, sur ce rapport à l'entreprise des écologistes, qu'est-ce que vous y dites, vous ?
Je suis un peu en difficulté pour vous dire, mais de penser que effectivement l'écologie n'a pas développé une pensée économique, je pense pour l'avoir écouté Alain Lipietz que c'est pas vrai. Mais c'est encore une fois une économie qui ressemble plus à Attac que à Macron. Bon, c'est encore une fois, on revient au choix de société et à quel horizon on se fixe, quelle direction on prend. Donc là, je dirais que sur le plan local, c'est un peu plus simple peut-être parce que, par exemple, je suis étonné que l'on n'ait pas, mais ça fait partie des conseils que l'on donne quand on travaille pour les collectivités, l'évaluation des projets, c'est qu'on peut localement créer de la valeur qui n'est pas monétaire. Pas monétaire dans le sens classique de la monnaie de la Banque de France. Je prendrai l'exemple du Cairn à Grenoble, une monnaie locale, mais l'économie sociale et solidaire est une manière de créer une valeur dans l'échange qui ne se traduit pas nécessairement en monnaie. Donc l'impact de tout ça, vous voyez que se multiplient les propositions, encore une fois, des revenus de subsistance, etc. C'est-à-dire que nous avons une économie qui est au bout du rouleau. L'économie telle qu'on la vit est au bout du rouleau et il nous faudra inventer des nouvelles solutions. Est-ce que même, je dirais, le modèle des gros groupes internationaux est-il durable? Ça, je n'en sais rien. Quand je vois tout le problème de l'évasion fiscale qu'ils appellent optimisation, par exemple. Donc, je ne veux pas multiplier encore une fois les diversions, mais c'est simplement pour dire que il faut accepter qu'on est face à une situation complexe et qu'il faut faire des choix et que dans ces choix, tout le monde ne va pas nécessairement se retrouver. Comment va-t-on survivre ?
Alors, il y a en plus cette aspiration participative aujourd'hui avec des citoyens qui demandent de participer aux décisions. Est-ce que c'est conciliable avec l'urgence climatique ?
Oui, ça c'est encore une fois un grand débat. J'ai des collègues qui considèrent que la Chine s'adaptera mieux au changement climatique à cause de son régime que l'Europe. C'est pour vous dire qu'on peut aller très loin. Je pense que la participation est encore une fois une notion dévoyée. Parce qu'en France, la participation se limite à une concertation, à une injonction participative qui venait donner votre avis. Il existe d'autres modèles, le modèle américain, enfin le modèle new-yorkais par exemple, parce que les États-Unis ne sont pas que Trump, ou le modèle québécois, où la participation est au travers de l'initiative citoyenne et pas de l'invitation du citoyen à venir participer à la décision par le haut. Donc là aussi, il y a des choses à retrouver où des gens, oui, peuvent pas seulement participer à la décision, mais à la vie de leur cité.
Anne, une dernière question.
Oui, on entendait quand même dans le reportage que des citoyens se sentent bousculés par tous ces changements. C'est quoi le bon rythme, en fait, pour faire la transition écologique? Est-ce qu'il faut...
En tout cas, le bon rythme, ce n'est pas les petits pas, parce que les petits pas traînent. Et donc, il faut de l'ambition. Mais de l'ambition partagée peut-être, mais l'ambition ne sera pas partagée à 100%. Je crois que je pourrais dire l'état par défaut de la société, enfin de la vie de la société, et le conflit, la controverse. Et donc ça nous oblige constamment à une négociation. Et il y a quelques personnes qui simplifient les choses et qui nous disent que tout peut être décidé de manière non problématique. Comme le monde, son état par défaut, c'est le changement, et ben dans la société, l'état par défaut, c'est le conflit. Et donc, mais le conflit ne signifie pas qu'on se tape dessus. Le conflit signifie qu'on négocie, qu'on discute.
Merci beaucoup Yorgos Remvikos, merci Daniel Bois. Des municipales bleu, blanc, vert, le grand reportage de cette semaine était signé Anne Fauquemberg. Réalisation Annie Bro, à la technique Dali Yaha et Julien Girard. Merci à la documentation d'actualité. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.